La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Madame, messieurs, bienvenue à La quotidienne. Mon nom est Michel Cloutier. Aujourd'hui, je reçois les gens de l'Institut Jean Garon dans l'épisode d'aujourd'hui. Simon Bégin, bonjour Simon.
Bonjour, c'est, bonjour Michel.
Michel Saint-Pierre qui est avec nous. Bonjour Michel.
Bonjour Michel et bonjour Simon.
Et là, je vais vous laisser présenter notre invité, lui, qui va nous parler d'une recherche, en fait, de l'Institut de recherche sur l'économie contemporaine. On va parler de l'autonomie alimentaire, un sujet souvent qu'on traite ici lorsqu'on est avec les gens de l'Institut Jean Garon. Je vous laisse aller avec l'invité, monsieur.
Oui, bonjour. Alors, nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui M. François L'Italien. M. L'Italien, vous êtes le directeur adjoint et co-auteur de l'étude qui nous intéresse. Vous êtes directeur adjoint de l'Institut de recherche sur l'économie contemporaine. Alors, peut-être en entrée de jeu, j'aimerais ça vous demander, peut-être brièvement, de nous dire un peu qu'est-ce que c'est que l'Institut et pourquoi vous vous êtes penché sur cette question-là?
D'abord, l'IREC existe depuis bientôt 25 ans. On a été créé au moment où le Québec entrait dans la globalisation. Il y a une série de préoccupations qui étaient centrales à cette époque-là, puis je pense qu'elles le sont encore, à l'effet que quel sera le rôle et la place de l'économie du Québec dans le nouveau jeu, dans les grands ensembles internationaux. Qui était structuré à l'époque par des accords de libre-échange, la création de nouvelles entités commerciales. Donc nous, on se penche sur à peu près tous les secteurs de la vie économique au Québec, en ayant une sensibilité particulière à la situation des territoires et des communautés. Donc pour nous, l'économie, c'est pas simplement les dynamiques sectorielles d'entreprises, les indicateurs conventionnels, c'est aussi les réalités associées à la vitalité des territoires, à la marge de manœuvre dont bénéficient les municipalités, etc., etc. Donc, vous comprendrez que dans ce contexte-là, nous, l'agriculture, le bioalimentaire, de manière générale, étant une composante essentielle de l'économie du Québec, et sont des dimensions qui sont couvertes par les travaux de l'IREC. Ça fait déjà plusieurs années que nous réalisons des recherches sur le sujet. Et plus récemment, donc, nous avons été interpellés par des partenaires de la société civile qui, donc Équitaire, pour ne pas nous nommer, qui voulaient en savoir davantage sur la question des filières émergentes au Québec comme un potentiel point d'appui pour l'autonomie alimentaire.
Donc, bonjour, c'est Michel Saint-Pierre. Bonjour, monsieur l'Italien. Je parlais de l'Équitaire, par exemple. Donc, les études que vous produisez, elles sont demandées ou commanditées par des groupes, des organisations, j'imagine, plus que des corporations?
Oui, bien, en fait, nous disposons déjà d'un plan de travail triennal. Nous définissons nous-mêmes, sur notre propre base, nos axes de travail, les contenus, nos recherches. Et lorsque des partenaires économiques, sociaux, territoriaux, même gouvernementaux nous interpellent, si ces interpellations-là s'insèrent bien dans notre programme de travail, nous entreprenons un travail qui va faire une pierre deux coups, si on veut.
Oui.
Donc, on s'assoit avec le partenaire et on définit le champ de la recherche.
Je pense que on peut dire que bon, vous penchez sur l'autonomie alimentaire. C'est un concept qui est redevenu un peu plus à la mode dans le temps de la pandémie. Ça avait été un peu mis de côté, mais justement la pandémie a mis en évidence la fragilité de grandes chaînes d'approvisionnement alimentaire. C'est un peu votre, si je comprends bien, à l'origine même de votre institut, c'était la globalisation qui commençait à l'époque qui vous interpellait. Et là, peut-être que c'était le temps justement de la regarder à nouveau quand on a vu qu'on n'était plus certain que les conteneurs pourraient nous arriver dans des temps acceptables. Alors, ça a été, je pense, un déclencheur pour vous pencher sur la notion d'autonomie alimentaire.
Tout à fait. Je pense que vous mettez le doigt dessus. On a vécu 20 années d'années, on va dire, fastes, au sens où la globalisation a permis aux sociétés occidentales d'avoir accès à toute une série de biens qui, auparavant, n'étaient pas disponibles, et de mettre en concurrence aussi des économies qui ne l'étaient pas. Ça, c'est peut-être le revers des choses. Et vous faites bien de mentionner que les chaînes d'approvisionnement qui se sont déployées durant la globalisation, ben elles sont très bien huilées, mais elles, en même temps, elles présentent une certaine fragilité, puisque étant basées sur du flux tendu, sur des chaînes logistiques qui dépendent de la situation géopolitique, sanitaire, économique mondiale, ben au moindre choc, ces chaînes d'approvisionnement-là, ces chaînes logistiques-là montrent leurs faiblesses. Donc, effectivement, je pense qu'on est arrivé probablement à la... On est en train de voir arriver le terme d'une parenthèse, du moins, on pourrait le penser comme ça, que la globalisation a constitué une parenthèse.
Bon. Et lorsque je regarde l'étude, vous, une des recommandations était de remplacer les importations par des produits locaux. Donc, je pense qu'on adhère tout à fait à cette position-là. Est-ce que vous avez fait une sorte d'inventaire, sans être exhaustif, mais des principales importations qui pourraient rapidement être remplacées comme production? Ben là, peut-être nous, on pense davantage sous l'œil regard agricole là-dessus. Là. Mais est-ce qu'il y a eu cette espèce de taux d'horizon de ce qui pourrait assez rapidement être remplacé par des productions locales?
Nous, on l'a pas fait. C'est un chantier en soi de faire cet inventaire-là. On pense cependant que c'est ce qu'il faut faire si on est cohérent avec l'impératif d'accroître notre autonomie alimentaire. Plus humblement, ce qu'on a fait dans la recherche, c'est d'identifier trois filières de produits émergents. Donc, on le dit de manière un peu à la blague, là, que c'est des produits qui, un peu comme dans un film, là, la personne qui porte l'échelle pendant 3 secondes, durant la scène d'action, là, ben c'est les filières émergentes, on n'en entend pas beaucoup parler. Elles méritent cependant une attention et un soutien, selon nous, pour l'avenir. Mais le travail d'inventaire dont vous parlez, je pense qu'il faut le faire. Et là, c'est pas dans une recherche que cet inventaire-là va devoir se faire. C'est vraiment une corvée nationale avec plusieurs travaux complémentaires qui vont devoir se mener de front. Puis je pense qu'on est bien équipé pour le faire au Québec. Il s'agit simplement maintenant d'aligner les ressources et la volonté.
Parce qu'on a quand même des données statistiques là, qui nous permettent au moins d'avoir une certaine vue d'ensemble de ce qui est assez gros, en tout cas, pour apparaître. Par exemple, notre dépendance en un produit de base qui s'appelle le blé panifiable, on a soulevé ça plus récemment, à peu près 90% du blé panifiable qui est tout à fait produit, qu'on peut produire ici et qu'on a déjà fait dans le passé, soit dit en passant, ben, que ce blé-là est importé, j'utilise un terme. Il est acheté de d'autres régions du Québec, du Canada, c'est-à-dire c'est pas au sens propre des importations, mais ce sont des achats de l'extérieur. Canola, c'est un peu la même chose. L'huile de canola qui a pris une place très importante, on pourrait produire du canola, bien sûr, il faudra une infrastructure pour le traiter, mais il reste que c'est juste ça, c'est quand même des gros chiffres là, qui pourraient certainement amener Absolument. Une certaine diversification de notre agriculture, parce que il faut le dire, elle n'est pas très diversifiée, notre agriculture, lorsqu'on la regarde là, de façon plus large. Là, on peut trouver toutes sortes de choses, mais dans les grands ensembles sont relativement peu nombreux. Là.
Monsieur...
Absolument, puis oui.
Allez-y, continuez, oui.
Ben, je pense que là-dessus, on est certainement d'accord avec le fait que l'autonomie alimentaire doit aller au-delà du slogan. Et que si on est sérieux sur ce chemin-là, la question, nous, on l'a soulevé comme une proposition dans le rapport, à l'effet qu'on devait avoir une politique de substitution des importations. On considérait que l'indicateur de l'autosuffisance alimentaire est intéressant, mais insuffisant. Dans la mesure où cet indicateur-là nous donne une idée, produit un profil de la production, le met en contraste avec la consommation, mais rien n'est dit sur la part de ce qui est produit ici et consommé ici. Autrement dit, on pourrait produire, et c'est le cas du porc notamment, on produit beaucoup de porc et on pourrait penser que 100% du porc consommé au Québec vient de la production domestique. Or, par le jeu des accords de libre-échange et de l'intégration continentale, on consomme quand même pas mal de porc importé des États-Unis. Autrement dit, les indicateurs de l'autosuffisance alimentaire, c'est une bonne, c'est un bon début, mais on doit avoir des portraits plus fins. Vous venez de parler du blé panifiable. À l'IREC, on travaille aussi sur la filière des produits de la mer. On sait que 80% environ des pêches capturées, produits de la mer, donc les poissons, les fruits de mer, sont exportés. Et près de 90% de ce qu'on consomme est importé. Donc, on a une idée assez fine pour quelques secteurs. Je pense qu'il s'agirait maintenant de faire un portrait consolidé de tout ça et de se donner des cibles ambitieuses, progressives, sur quelques années. Et j'ajouterais, pour terminer ce segment-là, Jean Garon, dans les années 80, avait pris le téléphone pour appeler les têtes dirigeantes des grands distributeurs des chaînes alimentaires et avait, on va le dire comme ça, exigé qu'ils jouent un rôle plus grand dans la promotion et l'offre de produits locaux. Si la grande distribution ne fait pas partie de l'équation, il y a beaucoup d'efforts qui vont s'avérer vains.
Monsieur Sultanin, j'étais là, je peux dire qu'il y a une différence avec aujourd'hui. Les sièges sociaux des grandes chaînes étaient au Québec. Alors, ça permettait peut-être plus facilement de faire ces téléphones-là. Écoutez, moi, il y aurait peut-être... Je proposais une lecture que j'ai faite d'une section importante de votre recherche. Vous abordez à un moment donné la question des prix. C'est clair que si on veut substituer, prenons un exemple, la tomate produite en serre au Québec à la tomate qui nous vient du Mexique, le prix n'est pas le même. Là, ce grand obstacle-là du prix. Et votre analyse est intéressante parce que vous dites que ça s'explique en grande partie parce que les coûts liés à la production de peu importe la denrée sont souvent externalisés. C'est-à-dire que c'est pas la chaîne de production de l'aliment qui supporte le coût environnemental, le coût sur la santé. Là, vous avez abordé beaucoup ce qu'on peut appeler la malbouffe. Vous parlez de pizza surgelée, vous parlez des croustilles. Alors, les coûts de santé causés par une mauvaise alimentation, ben, ce n'est pas la chaîne alimentaire qui les supporte. Est-ce que vous direz si c'est un raisonnement qui se tient? Si, si les coûts de santé, les coûts plus élevés d'aliments produits au Québec avec des conditions là, d'aliments de santé, les économies que ça réaliserait, qu'on pourrait réaliser en termes de coûts de santé ou les économies qu'on réaliserait en évitant les désastres écologiques qui se pointent à l'horizon avec nos méthodes de production, si ces économies-là étaient réinvesties pour soutenir des politiques d'accès à l'alimentation, est-ce que c'est un peu ça le scénario que vous envisagez?
Disons que je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, puis pas simplement parce qu'on le dit lui-même dans le rapport, mais parce que c'est la vérité. Le miracle de la globalisation repose sur ça. C'est les avantages comparés de pays ou de juridictions où les conditions de production sont les plus on va le dire comme ça, là, les plus faibles, les plus compétitives, sur le plan environnemental, les conditions de travail, les normes sanitaires. C'est certain que dans le 21e siècle devant nous, il va falloir repenser la manière dont on comptabilise, dont on évalue le prix des aliments. Donc, pour les raisons que vous avez évoquées, est-ce qu'on est en mesure de proposer une structure de prix qui internaliserait les coûts? C'est un gros morceau.
Oui.
Je vous dirais simplement, nous, on évoque la question dans le rapport parce qu'on dit que c'est un fait. On va payer des aliments plus chers. Mm-hmm.
Non, tout à fait. Vous avez raison.
D'autre part, je dirais ceci, c'est qu'à mesure que le pétrole va se retirer disons qu'on si on est cohérent avec les plafonds d'émissions, si on est cohérent avec nos promesses environnementales, on va devoir diminuer la proportion du pétrole dans les transports. Il y a un autre gros morceau du miracle de la globalisation qui dépend du pétrole. Or, à mesure que le pétrole va se retirer de l'équation, les coûts de transport qui sont responsables en partie de la compétitivité des tomates du Mexique par rapport à celle de Châteauguay risquent de s'amoindrir. Autrement dit, les tomates du Québec vont probablement gagner au change du fait que les coûts de transport vont représenter une part de plus en plus grande, je dis pas dominante, mais de plus en plus grande dans le coût des denrées bioalimentaires. D'autre part, si on est rigoureux aussi sur le plan écologique, il va falloir se donner des normes homogènes d'une juridiction à l'autre au niveau de l'utilisation des intrants chimiques, des régies agro-agricoles. Est-ce qu'on utilise les sols comme si on en avait pas besoin dans 20 ans? Bref, il y a beaucoup de sujets là qui sont associés au prix. Le prix est comme le concentré de plein de sujets. Nous, on voulait dire qu'on ne peut pas penser l'autonomie alimentaire sans penser la question des prix.
Monsieur Litanier, ça envoie un message quand même à des gens, et je pense à nos décideurs politiques, qui ont eu dans le passé une grande influence sur notre modèle de production agricole et donc forcément une bonne partie de l'alimentation du Québec aussi. Donc, ce message-là, est-ce que vous pensez qu'ils le reçoivent? Parce que nous aussi, on y travaille également, parce qu'on est tout à fait d'accord sur la majorité des éléments que vous amenez. Nous, on se pose toujours la question, mais comment y arriver? Et on se bute très, très souvent, généralement, de fait, au fait que les politiques qui ont nous amené là sont presque toujours restés le statu quo depuis 40 ans.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je nuancerais cependant en disant que nous, à l'IEC, on appelle le modèle agricole québécois qui quand même tranche avec un certain nombre de réalités agroéconomiques dans le reste de l'Amérique. On a quand même fait le choix de soutenir des fermes de détenues par des propriétaires exploitants. On voit que ce modèle-là est sous pression de manière extraordinaire en ce moment. Il est évident qu'en Amérique du Nord, contrairement à l'Europe, par exemple, où il y a des traditions paysannes, où il y a une diversification des modèles, ici, les marges de manœuvre sont beaucoup moins grandes. Et j'ai envie de dire, dans le contexte de la globalisation, où on a intensifié les pressions sur les marges bénéficiaires des producteurs, sur les, en fait, tout l'appareil institutionnel, la gestion de l'offre, l'ASRA, en fait, tout le secteur agricole comme tel
a
été mis sous pression.
Monsieur Litalet, je m'excuse.
Oui?
C'est le temps qu'on avait. Moi, j'aimerais ça, juste en terminant, saluer votre recherche, votre rapport. Je le trouve audacieux, parce que vous arrivez avec des idées, là, vraiment, qui vont faire sursauter plusieurs, mais je le trouve aussi très courageux. Et je pense qu'on va tirer tous l'institut, le vôtre et le nôtre. Je pense qu'on est appelé à tirer dans la même direction. Alors, écoutez, on aura sans doute l'occasion de se reparler. C'est des enjeux qui sont trop importants pour qu'on les laisse de côté. Et nous, entre nous, on va continuer notre conversation sur votre rapport pendant quelques instants. Merci beaucoup.
Merci, M. Litalier, et on se reparle. Merci.
Alors voilà, on fait une pause et on revient dans un instant. On va justement regarder, faire un tour de table sur comment on voit ça, ce qu'on vient d'entendre.
Écoutez la saison 2 de La vie agricole à MaTV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver MaTV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boivin, fromagerie L'Ancêtre, fromagerie La Station, fromagerie Les Basques, laiterie Charlevoix et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Venez participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi, plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème « Poissons et vendanges ». Et le samedi 4 novembre, sous le thème « Fondu et fromage ». Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole. Avec le partenariat de Nature Bélil, le spécialiste de la nutrition des poules en ville.
Alors, nous voilà de retour à la quotidienne. On est avec les gens de l'Institut Jean Garon, Simon Bégin, encore avec nous, Michel Saint-Pierre. Et on a Guy de Bailleul qui vient de se joindre pour ce deuxième segment. On va revenir sur ce que nous a dit, en tout cas, M. François Litalien de l'Institut de recherche sur l'économie contemporaine, là, l'autonomie alimentaire. Ils ont leur proposition à eux.
Oui.
On peut faire certains parallèles avec l'Institut Jean Garon. Mais il y a peut-être les méthodes là, qui ne sont pas tout à fait pareilles.
Ben oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, notre invité nous a parlé d'une vaste étude que l'IREC vient de publier avec des partenaires. Bon, des partenaires qui sont notables, Équiterre, entre autres, l'Association pour la santé publique du Québec et la Chaire de recherche du Canada sur les inégalités en nutrition. Alors, on voit un peu, par rapport aux gens impliqués, ça donne un peu une idée de l'orientation. Ils sont très préoccupés par la santé, l'accès à une justice sociale d'accès à l'alimentation. Et
quand je vois Équiterre, je me dis qu'il doit y avoir aussi beaucoup d'environnement également.
Oui, bien sûr. Ils questionnent, en fait, indirectement, pas aussi fortement que nous on le fait, n'est-ce pas, Michel? Ils questionnent les modèles agricoles actuels. Et je pense que le point de départ de l'IREC, de sa fondation même, c'était d'examiner l'impact de la mondialisation sur l'économie, la société québécoise. Et M. Lutanier était très clair là-dessus. Cette idée-là de revenir avec l'autonomie alimentaire, ben, ça a un peu découlé de la pandémie où on a vu que les chaînes d'approvisionnement, il y a eu une grande inquiétude dans la société. M. Legault lui-même a été le premier à parler beaucoup d'autonomie alimentaire. Il en parle moins depuis ce temps-là, mais c'était revenu à la mode, là, parce qu'on était inquiets de nos sources d'approvisionnement.
Oui, et sur beaucoup de choses, on réalise que, lors d'une pandémie comme celle qu'on a connue, les sources d'approvisionnement peuvent devenir difficiles. Et on réalise aussi une chose, c'est que dans le cas, par exemple, d'une pandémie mondiale, si on doit rapidement fermer les frontières, ben il faut faire ce qu'il y a à l'intérieur des frontières. Et on se rend compte que dans beaucoup de champs de domaine où avant, c'était acquis, maintenant, on est beaucoup dépendant de ce qui se fait à l'extérieur.
Effectivement. Alors, messieurs, comment vous réagissez, vous, à cette étude quand même fort intéressante, audacieuse, comme je l'ai dit, courageuse même, de l'IREC sur l'avenir de notre secteur agroalimentaire?
Bien, globalement, moi, je trouve qu'il pose quand même un bon diagnostic. C'est là qu'on peut dire qu'ils sont courageux. Mais, il ne suggère pas beaucoup de moyens. Comment y arriver à ces choses-là?
Le comment, bien sûr.
Et quand on arrive avec des moyens qui sont, par exemple, taxer la malbouffe ou essayer de changer les habitudes des consommateurs, moi, je trouve que là, on arrive dans un domaine... La faisabilité est à peu près nulle de ce côté-là. Là. Taxer la malbouffe, là, c'est un gros défi parce que ça voudrait dire qu'il y aurait une contestation. Je veux dire, qu'est-ce qui est de la malbouffe? La première question, c'est quoi la malbouffe? Sommes-nous la malbouffe lorsqu'ils font telle chose? Alors, résultat, je pense que c'est pas là que... Tout le monde souhaiterait que la malbouffe soit moins importante dans le...
Est-ce que ce serait vraiment efficace? Parce que lorsqu'on a vu ce genre de mesures-là arriver, ben les gens, souvent, réaménagent leur budget. Ils vont payer quand même le 50 cents de plus, la pièce considérée comme malbouffe. On a tenté de faire ça avec l'essence aussi, à un moment donné. Là, on pensait que les gens, ça les inciterait à prendre moins l'auto en taxant l'essence. Mais ils prennent toujours l'auto. Il faut en arriver à dire on va passer à l'auto électrique en 2030. Et encore ça, c'est pas fait.
Guy, qu'est-ce qu'il en pense?
Oui, non, effectivement, c'est directement taxer la malbouffe. Concrètement, ça pose des gros problèmes, j'allais dire, administratifs. Ceci dit, essayer effectivement d'informer davantage la population sur les conséquences et nature même de la malbouffe. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire. On sait que, par exemple, il y a quand même de plus en plus de gens qui regardent les étiquettes sur la composition des aliments, sur la teneur en calories, en lipides, etc. Je sais qu'en Europe, on est allé plus loin en matière d'étiquetage alimentaire en imposant des étiquettes qui indique en fait la performance d'un produit d'un point de vue environnemental, d'un point de vue de santé, etc. Donc, déjà, il y a peut-être des affaires
On est bien loin de là, Guy. Moi, je vais vous donner un exemple du chemin à faire en termes d'éducation. Il suffit de regarder le téléjournal de Radio-Canada. Alors, il y a beaucoup d'annonces, mais les deux principales sources de commandites dans le téléjournal de Radio-Canada, c'est soit un, les gros VUS, qu'on voit se promener dans la nature en la saccageant allègrement. Et deux, McDonald's. Alors, en termes de, donc, pour combattre la puissance publicitaire de ces produits-là, par des cours ou des étiquettes sur les produits, on a du chemin à faire. Donc, je pense... Ben,
une de mes vieilles idées qui n'est pas tout à fait réalisable, mais je me suis toujours dit que la publicité, ça devrait être une activité qui est taxée à 100%, non pas pour... Peut-être que ça contribuerait à en faire moins de publicité, mais c'est parce que je me dis le produit de la taxe sur la publicité permettrait de lancer des activités de contre-publicité. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait très bien avoir dans le même journal de Radio-Canada une publicité pour un produit et une publicité ou une information qui attirerait l'attention sur les problèmes liés à la consommation de ce produit-là. Ouais. J'ai toujours rêvé de ça, évidemment. Je pense pas encore à la forme de réalisation.
Mais... Je vous rassure, Guy, il y a déjà un début de ça. Dans l'industrie de la radiodiffusion, le CRTC nous demande de contrebalancer la publicité sur l'alcool avec de la publicité pour les organismes comme les AA ou les autres organisations de prévention d'alcool. Il y a déjà un début qui est fait. Là. C'est préliminaire, là. C'est très au début, là. Mais il y a déjà quelque chose en ce sens-là. Mais pour revenir à notre malbouffe, là, on a un autre problème, et Simon l'a bien soulevé tout à l'heure, là. À partir de quand, à un moment donné, un produit est de la mal... Il y a des choses pour lesquelles ça peut être évident, là. Le gros hamburger avec le bacon qui dégouline, ça peut devenir évident, là. Mais lorsqu'on parle, par exemple, maintenant des salades ou on parle de d'autres aliments, à partir de quand et comment on fait, là, pour savoir si c'est de la malbouffe ou pas, là?
Je donne un exemple. L'aliment le plus vendu en Amérique du Nord, à part, je suis pas sûr si c'est le premier ou le deuxième avec les hamburgers, c'est les pizzas. La pizza, c'est... Ouais. Bon. La pizza, est-ce qu'on appelle ça de la malbouffe? En tout cas, si c'est de la malbouffe, les Italiens, les Napolitains en particulier, vont sursauter parce que c'est un aliment...
C'est
leur aliment fétiche. Ouais,
c'est sûr que la barre est très haute dans les propositions de l'IREC. Moi, je les trouve quand même intéressant dans le sens de grands objectifs. Il faut tendre vers là. Mais peut-être, Michel, qu'est-ce que tu penses? M. Litalé l'a mentionné, un autre niveau de difficulté. Imaginons dans un modèle que le Québec devient la société la plus vertueuse, taxe la malbouffe, encourage les pratiques agro-environnementales de protection du sol, pas de pesticides, tout ça. Mais si on est tout seul dans notre petit coin, là, avoir la vertu, on est dans un monde globalisé, hein, il la mentionne, c'est un peu la difficulté, on ne va pas nulle part avec ça. Là. C'est parce qu'il l'a dit, M. Le Temps, ça va prendre des solutions pan-nationales.
Je pense que ça prend des solutions qui sont plus à portée de ce qu'on peut faire. Mm. On peut changer, par exemple, surtout dans notre chaîne d'approvisionnement, ce qu'on importe et qu'on pourrait produire. Bon, celle-là, en tout cas, au moins, regardez, là, est-ce qu'il y a possibilité, peut-être avec des soutiens temporaires de transition. Mais il faut quelque chose comme ça. Autrement, puis on touche à des affaires qui sont très grosses. Hein, ouais. On en parlait tout à l'heure avec lui. Canola, Guy, hein, c'est quand même devenu la principale production de l'Ouest canadien. Et c'est l'huile qu'on considère de base, mais peut-être la plus santé, là, en tout cas, elle a des propriétés de cuisson qui sont indéniables. Et donc, on est un grand producteur canadien et d'exportateur. Alors qu'ici, ça ne fait pas beaucoup de vagues, le canola. Hein,
Guy et Michel, l'Institut, vous savez, vient de produire un document sur la crise porcine avec la question, est-ce qu'on va enfin pouvoir profiter d'une crise alimentaire comme dans le secteur porcin pour changer nos politiques de soutien à l'agriculture. Peut-être que si on avait moins de maïs soya dans la plaine de Montréal, on pourrait avoir plus de canola, plus de blé paniflable. Ouais. Alors, c'est peut-être là qu'il faut commencer. Il faut peut-être profiter, comme la pandémie a été l'occasion de mettre de l'avant l'autonomie, peut-être qu'il faut profiter de la crise que vit le secteur porcin actuellement pour commencer à diversifier notre agriculture.
Moi, je pense que c'est plus concret, c'est plus faisable, à tout le moins, que de changer rapidement les habitudes des consommateurs. Donc, bien sûr, l'éducation doit jouer un rôle. Il a mentionné l'achat par les institutions. Bon, oui, c'est un la UPA a une habitude de dire c'est un pas dans la bonne direction.
Oui, c'est vrai, la pression, l'expression consacrée.
On dit ça souvent, mais c'est vrai que c'est un pas dans la bonne direction de dire à nos institutions, bien écoutez, on est aussi des fournisseurs et puis, on peut peut-être avoir des réseaux d'approvisionnement qui sont plus respectueux de notre production elle-même.
Oui, effectivement, en allant dans ton sens, Michel, ça nous ramène à nos politiques agricoles. On parle de taxer la malbouffe d'un côté, mais si on rend aussi d'autres productions plus attrayantes, et notamment si on réforme notre système de soutien aux productions en privilégiant un certain nombre de productions émergentes ou déjà installées mais chancelantes comme bio dans un certain nombre de secteurs, si on transfère sur ces productions-là une partie sensible des montants qui sont consacrés à nos productions conventionnelles, ça peut déjà faire basculer beaucoup de choses.
Ah oui, tout à fait. Je regardais un travail qui avait été fait il y a quelques années, mais il n'y a pas très longtemps, sur justement la carte géopolitique des échanges en agriculture et en agroalimentaire. C'est Le Devoir qui a produit ça. Je pense que tu as dû voir ça à un moment donné. Très, très bon travail qui avait été fait et qui nous montrait à quel point les échanges... Oui, la balance commerciale est actuellement même positive en faveur de l'agroalimentaire du Québec, mais positive beaucoup à partir du porc, chocolat, des choses comme ça. Et aussi beaucoup de légumes, soit dit en passant, qu'on exporte, les carottes, notamment, oignons, pour lesquels on est des exportateurs, et probablement en saison, des laitues et autres choses, brocolis notamment.
Merci, chers collègues Guy et Michel, d'avoir poursuivi cette réflexion. En terminant, peut-être, c'est un document qui est plein de bonnes idées, mais ça a pris, comme on l'a vu avec la pandémie, ça prend un déclencheur, à un moment donné, pour qu'il y ait des vrais changements. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que pour en arriver à mettre en place les idées qui sont sur la table, il ne faudrait peut-être pas qu'il y ait un autre déclencheur, genre pandémie, parce qu'on ne serait pas gagnant. Souhaitons que ce soit plus par une bonne volonté et une réflexion politique avec l'appui de l'Institut Jean Garon qui mènera à ces changements-là. Alors, merci et à la prochaine.
Merci beaucoup. Merci tout le monde.
Merci, à bientôt.
Merci, c'était La Quotidienne. On se donne rendez-vous très bientôt.